accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour et bienvenue sur Accent. Alors que la Russie pleure les morts de Saint-Pétersbourg, 3 jours après l'attentat dans le métro, dans le Caucase russe, les attaques terroristes, elles sont fréquentes. C'est notamment le cas au Daghestan, république voisine de la Tchétchénie. En 2015, la rébellion armée islamiste a prêté allégeance à Daesh. Elle est une source importante de combattants rejoignant les djihadistes en Syrie. Et au sud du Daghestan, la ville historique de Derbent, reconnue pour sa tolérance religieuse, s'inquiète de l'islamisation d'une partie de cette jeunesse. C'est le reportage d'Étienne Bouche.
Veli Youssoufov a une anecdote à raconter sur chaque pierre. Il a travaillé comme guide à Derbent pendant 40 ans. La voiture remonte la vieille ville jusqu'à la citadelle Narinkala. Depuis 2003, l'ensemble est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'horizon, la mer Caspienne. À l'époque soviétique, Derbent accueillait beaucoup de touristes. La fréquentation a commencé à diminuer dans les années 90, quand les frontières se sont ouvertes. Sur les hauteurs de la forteresse, Veli Youssoufov raconte la richesse culturelle de la ville.
Au centre de la vieille ville, il y a la mosquée. Un peu plus bas, il y a l'église arménienne, où l'on s'est retrouvé tout à l'heure. Encore un peu plus bas, on trouve la synagogue, et enfin l'église orthodoxe. Tous ces lieux se trouvent sur une même ligne, comme à Jérusalem. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la Jérusalem du Caucase.
La datation de l'origine de la ville fait toujours débat. D'ailleurs, les fouilles se poursuivent. L'UNESCO, elle, a tranché. Derbent aura 2000 ans. L'anniversaire a été fêté en grande pompe en 2015. Des célébrations endeuillées par un attentat perpétré à la toute fin de l'année. C'était un soir de décembre à la citadelle. 1 mort, 11 blessés, l'acte a été revendiqué par l'organisation État islamique. Frapper cette ville au carrefour des civilisations, c'était symbolique. En 2006, l'UNESCO a remis à Derbent un prix récompensant son idéal de tolérance. Dans le Caucase, les locaux de l'organisation se trouvent ici, à côté de l'église arménienne. Gyul Chokra Seidova en est très fière. Elle est la responsable de la chaire spécialisée dans les traditions spirituelles dans le Caucase du Nord.
Dans cette ville, il n'y a jamais eu à aucune époque d'affrontement de nature religieuse. Il n'y a jamais eu de conflit interreligieux. C'est une ville tout à fait unique. Ici, il y a une ambiance particulière et nous faisons tout notre possible pour que notre ville ne soit pas déstabilisée par des influences étrangères.
La vieille mosquée date du début du 8e siècle. C'est l'une des plus anciennes au monde. Les platanes qui lui font face auraient 800 ans, égard à celui qui en douterait devant Farhad Aliyev, le gardien des lieux. Il explique que c'est à partir de Derbent que l'islam s'est diffusé en Russie. Et quid de ceux qui partent en Syrie rejoindre les rangs de Daesh? Des gens peu structurés, répond-il. En tout cas, ils ne viennent pas à la mosquée.
Aujourd'hui, c'est vendredi, les gens se rassemblent. Et avant la prière, il y a le prêche, durant lequel on appelle à la paix, à la coopération. Que Dieu fasse que nous vivions en bonne santé, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'on ne s'entretue pas. Pourquoi donc couper des têtes? Pourquoi?
D'une manière générale, les habitants du Daghestan constatent une relative accalmie depuis le départ des combattants vers la Syrie. Pourtant, le média Kafkaski Ouziel observe une augmentation du nombre de victimes d'affrontements armés entre 2015 et 2016. Les médias russes, eux, rapportent régulièrement arrestations et opérations spéciales des services secrets au Daghestan. Ali Ibrahimov est le directeur des musées de la ville et un fin connaisseur de la région. Selon lui, la rébellion islamiste s'est emparée du vide laissé par la disparition de l'Union soviétique.
Avant, nous avions dans la tête l'idée d'être les premiers cosmonautes, d'être de bons ingénieurs, des champions. Les gens n'avaient pas le temps de penser à tel ou tel courant indésirable. Tout était bien réglé, tu étais constamment occupé à quelque chose en plus du travail. Et aujourd'hui, avec le chômage, on propose à des gens de l'argent afin qu'ils fassent avancer leur idéologie radicale qui détruit une culture et des traditions millénaires.
Après la première guerre de Tchétchénie, la rébellion s'est progressivement islamisée. Elle s'est étendue, puis transformée dans les années 2000 en un mouvement islamiste actif dans tout le Caucase du Nord. Raconter l'histoire de la région, éduquer la jeunesse, c'est selon Ali Ibrahimov le seul moyen de résister à l'embrigadement.
Это экономический проблем, это номер один, кстати. Когда экономика хорошо, когда есть финансы.
Le problème numéro un, c'est l'économie. Car quand l'économie va bien, quand il y a de l'argent, on peut dépenser beaucoup, non pas pour financer des actions de lutte contre les extrémistes, mais financer des programmes qui structureront les futures générations. Qu'elles sachent danser, dessiner, chanter. Tout ce qui déjoue l'extrémisme. Un homme qui tient dans ses mains une fleur ou un instrument de musique ne peut pas être un assassin.
Selon le service russe de renseignement militaire, 4000 citoyens russes combattraient en Syrie, le plus gros contingent venant du Daghestan, mais aussi 5000 ressortissants des pays de l'ex-URSS.
Theresa May était le Henri VIII au féminin de l'Angleterre. Eh bien, c'est la comparaison audacieuse qu'osent établir certains historiens britanniques. Il faut dire que les difficultés techniques que représentent le Brexit pour le Royaume-Uni et l'Europe ont déjà connu un précédent en 1534. Explication avec Marie Billon.
Ce Brexit, c'est finalement peut-être beaucoup de bruit pour rien, pour plagier William Shakespeare, le dramaturge qui est né en fait 30 ans seulement après le premier Brexit opéré par l'Angleterre. C'était en 1534 quand Londres a décidé de prendre ses distances avec le continent européen, rappelle sur la BBC l'historien David Starkey.
Nous avons déjà été dans la même situation. Nous vivons notre deuxième Brexit. Le premier fut bien plus gros, la réforme anglicane et la séparation d'avec Rome sous Henri VIII. Il voulait l'indépendance, l'autodétermination, l'autonomie gouvernementale.
Sauf que ce n'était pas les Anglais qui voulaient changer de religion et s'éloigner de Rome. La volonté n'était pas populaire comme aujourd'hui, mais bien celle d'un monarque autoritaire. Malgré ce gros bémol, les parallèles sont nombreux. La séparation d'avec le continent s'est faite pour des raisons personnelles maquillées en cause nationale. La volonté d'Henri VIII de divorcer de sa première épouse, Catherine d'Aragon, et l'effort de David Cameron de calmer la rébellion au sein du Parti conservateur. Échec pour le roi comme pour le Premier ministre. Officiellement, réforme et Brexit sont une question de liberté. À l'époque, Bruxelles était Rome, les fonctionnaires européens étaient les cardinaux et le pape qui refusait de voir l'un de ses membres s'en aller. Cela ne ferait qu'affaiblir l'Europe, ce serait une catastrophe morale que les États se chargeraient de transformer en crise économique par vengeance, disait-on déjà. Pour empêcher Londres de partir, Rome a fait quelques concessions, notamment en 1533, ce qui se révélera être une erreur stratégique l'année suivante. Le pape a laissé Henri VIII choisir le chef de l'Église catholique d'Angleterre, Thomas Cranmer, un réformiste, et c'est lui qui concrétisera la séparation d'avec Rome. Cela ressemble fort aux Européens qui, en 2015, concèdent un référendum à David Cameron avec quelques gestes de bonne volonté, et les Britanniques qui en profitent pour claquer la porte l'année d'après. Sauf qu'au XVIe siècle, c'est le roi Henri VIII qui voulait être maître en son propre pays, ne plus être assujetti au pape. Aujourd'hui, c'est le peuple souverain qui ne veut plus que son parlement plie le genou face aux directives européennes. À l'époque, il était déjà question d'argent. Ceux qui n'iraient plus à l'église serait redirigé vers les coffres de sa majesté, comme il est censé maintenant aller dans les caisses des services de santé par exemple. Et aujourd'hui, comme alors, l'Écosse joue les troublions. John Charmley est professeur d'histoire, il n'est pas complètement d'accord avec David Starkey, mais l'attachement de l'Écosse au continent européen par la religion ou l'UE est autant une réalité aujourd'hui qu'il y a un demi-millénaire.
On peut établir en effet un parallèle dans la volonté des Écossais de rester avec le catholicisme romain. Mais contrairement au XVIe siècle, ce n'est plus un pays souverain.
La nation du Nord n'a pas le même choix qu'alors, mais c'est justement pour le récupérer qu'elle veut retrouver son indépendance. Pendant 7 ans, dans les années 1540, les Anglais ont tenté de ramener leurs voisins à eux en les courtisant brutalement. On appelait ça le rough wooing. Aujourd'hui, Theresa May ne compte pas envoyer ses armées vers le Nord comme l'a fait Henri VIII, mais on ne peut pas dire qu'elle manifeste une tendresse folle envers Nicola Sturgeon. God save Ireland, cried the heroes. God save Ireland, say they all. Where the moon, the scaffold high, or the battlefield we die. Oh, no matter where, for Ireland, here we fall.
Et c'est bien à cause du Brexit que l'Irlande du Nord n'a toujours pas de gouvernement. La province tourne au ralenti en l'absence de budget voté par l'Assemblée. Une situation qui a des conséquences pour nombre de services publics qui craignent des coupes budgétaires. Quant aux organisations caritatives ou associations qui dépendaient des subventions publiques, certaines doivent mettre la clé sous la porte. Reportage à Belfast, Julien Lagache.
La pièce est presque vide au premier étage de ce bâtiment situé dans un petit parc d'activités au nord de Belfast. Seuls quelques cartons et jouets traînent encore. On trie, on range, le service de soutien intensif aux familles ferme ses portes. L'IFSS était géré par Externe, principale organisation caritative en Irlande du Nord, mais faute de subvention, le programme s'arrête. Au rez-de-chaussée, les 47 employés s'activent, mais uniquement pour trier et clore leurs dossiers. La plupart d'entre eux sont licenciés.
Oui, c'est mon cas. Je pars après 18 ans de maison et sans assurance de retrouver un emploi.
Et vous avez un plan pour la suite ?
Mon plan, c'est de chercher un job. Mais pour le moment, je n'ai rien.
Liz Greer n'a connu qu'Externe comme employeur et ces trois dernières années, elle était chef d'équipe à l'IFSS, un programme expérimental d'aide aux familles qui connaissent toutes sortes de difficultés.
Notre mission, c'était les familles au bord de l'implosion, dont les services sociaux s'étaient occupés et qui s'apprêtaient à placer les enfants en famille d'accueil. Alors on intervenait pour les maintenir en sécurité chez eux, à suivre l'école normalement et les parents à retrouver un emploi, par exemple. On faisait tout pour préserver la famille.
Pour la première fois, un programme faisait participer des travailleurs sociaux aux diverses compétences et associait 5 ministères pour financer cette action préventive, action qui a obtenu des résultats, estime Becky Jarvis, l'une des assistantes sociales de l'IFSS.
Je me souviens, moi, d'une jeune maman. Les services sociaux voulaient lui retirer son enfant parce qu'elle n'était pas jugée assez responsable. Quand je l'ai rencontrée, elle avait de mauvaises fréquentations, il y avait de l'alcool, de la drogue. Alors on a travaillé sur sa conception, son style de vie, sa volonté de garder son bébé et sur son rôle de parent. Et puis finalement, les services sociaux l'ont autorisée à garder l'enfant parce qu'ils ont vu qu'elle voulait être une bonne mère.
Et ces résultats se traduisent en chiffres. L'évaluation de la mission a montré que l'IFSS avait notamment permis de retirer un tiers des jeunes placés sur le registre de la protection de l'enfance. Un bilan positif qui aurait pu permettre de poursuivre le travail. Charlie Mack, le PDG d'Externe, se désole que la crise politique ait un impact aussi lourd.
Ça a été un choc total quand j'ai appris. Juste avant la dernière élection, tous les partis m'avaient dit que ce serait moralement inconcevable de ne pas prolonger notre mission parce qu'elle protégeait les plus vulnérables.
L'IFSS a bien essayé d'alerter l'administration, mais en l'absence de pouvoir politique, les fonctionnaires en charge du budget n'ont aucune marge de manœuvre.
I've left no stone unturned. I have written 4 times to the 5 funding departments.
J'ai remué ciel et terre en écrivant 4 fois aux 5 ministères concernés, aux leaders politiques. On a manifesté et j'ai même écrit à l'administration pour dire qu'Externe était prête à faire appel aux dons si on pouvait obtenir un budget même inférieur. Mais je crois que le scandale ici, c'est qu'en l'absence de pouvoir politique, l'administration choisit de couper les vivres aux jeunes les plus vulnérables, avec des problèmes d'alcool, de drogue et dont les comportements pourraient au final coûter bien plus au gouvernement.
Une colère partagée dans le monde associatif car beaucoup de services de santé et d'éducation notamment sont gérés par des bénévoles ou sous-traités à des organismes caritatifs et tous sont inquiets actuellement d'après Geoff Nuttall du NICVA, l'institution qui supervise et encadre les associations.
Nous avons mené une enquête pour étudier l'impact de cette incertitude ambiante et près d'un tiers de nos membres ont répondu qu'ils prévoyaient déjà de licencier tandis qu'un sur dix a déjà subi une coupe budgétaire. D'ailleurs, pour la moitié d'entre eux, moins de budget veut dire moins d'emplois et même si le financement revenait maintenant, les dégâts sont là et la continuité des services est perdue.
Mais la sortie de crise politique est encore loin, ce qui rajoute à l'incertitude, voire à la frustration. Dans les rues de Belfast, c'est Phyllis Young, institutrice retraitée, qui résume le mieux et le plus poliment l'état d'esprit ambiant.
Les politiques sont irresponsables. Ils agissent comme des parents qui laisseraient seuls leurs enfants en leur disant « Désolé, on ne s'aime pas, alors débrouillez-vous ». On ne peut pas s'entendre tout le temps avec tout le monde, mais on peut faire des compromis. Ici, la plupart des gens en ont plus qu'assez.
Et l'exaspération se ressent d'autant plus avec le Brexit, désormais officiellement déclenché. Beaucoup de gens craignent qu'en l'absence de pouvoir politique, Belfast ne puisse pas défendre ses intérêts dans les négociations avec l'Europe.
Des villas perchées sur les collines de Palerme, des eaux azur, voilà le cadre idyllique que propose le Pizzosella Art Village. Mais ne vous attendez pas à y trouver un village paradisiaque. Il s'agit en fait d'une opération très ironique pour dénoncer les constructions qui ont défiguré le paysage. Cécile de Barge.
Au premier plan, une femme en élégant maillot de bain une pièce regarde au loin, spritz à la main. Derrière elle, le décor est étrange. On reconnaît une ville en contrebas à flanc de colline et une villa perchée sur les hauteurs. Cette scène déconcertante, c'est celle qui accueille les visiteurs du site de voyage en ligne TripAdvisor lorsqu'ils cherchent à s'informer sur un lieu de vacances un peu particulier, le Pizzosella Art Village, terrain de jeu de jeunes artistes siciliens. Tout commence dans les années 70. Sur ces collines jusque-là préservées, 170 villas sont construites illégalement. Certaines sont finies, même vendues, à des familles qui aujourd'hui encore les habitent. Mais quelques années plus tard, ordre est donné de cesser les travaux. Des dizaines et dizaines de villas restent donc à l'état de carcasses de béton, jamais terminées, jamais habitées non plus. Pizzosella est rebaptisée la colline du déshonneur et devient un symbole des constructions illégales de la mafia qui sont un vrai fléau en Sicile, mais aussi de l'immobilisme de la région pour réhabiliter la zone. Plusieurs projets sont entrepris, puis abandonnés. C'est là qu'intervient le collectif artistique Fareala qui décide d'inviter des street artistes à transformer les villas en musées à ciel ouvert et ainsi à attirer l'attention sur la colline du déshonneur, notamment à travers leur page TripAdvisor d'une ironie mordante. Incroyable voyage dans le monde magique des constructions illégales, enfin un endroit pour toucher du bout des doigts les dégâts environnementaux produits par la criminalité organisée, peut-on lire parmi les commentaires. Mais l'ironie ultime de cette histoire toute sicilienne est venue de la police qui a interrompu il y a quelques mois les séances de street art en arrêtant les artistes qui peignaient sans autorisation. Music.
Avec nous Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Catherine.
Alors vous nous faites découvrir aujourd'hui les arrangements très riches d'un jeune Hollandais, Kim Jansen.
Et oui, il publie ce printemps son troisième album Cousins. Un disque aux allures de nouveau départ pour un chanteur qui évoluait jusqu'à présent dans un registre plutôt folk, parfois un peu austère, et qui fait aujourd'hui rentrer la couleur dans ses chansons sous forme d'arrangements somptueux. Chœurs, cordes et cuivres font pétiller des morceaux qui ont été enregistrés sur plusieurs années et dans différents studios et remuent notamment les souvenirs d'une enfance et d'une adolescence passées en Asie, à Bangkok, Phnom Penh, puis Katmandou. Alors on n'y entend ni tabla ni sarangi, mais des histoires et des sons qui donnent une saveur particulière à la pop orchestrale de Kim Jansen.
Grown dark. Hear voices and snapping fireworks. Doorways lit up, surrounded by black trees. And the midnight parade swims around me. Bonfires in the streets, sharks ring in the night, and the dynasty rains down through the sky in a golden white shimmery haze. The earthquake man stirs slowly.
Dynasty, extrait du troisième album de Kim Jansen. Merci Vincent Théval.
Merci Catherine.
Et à la semaine prochaine. À la réalisation, il y avait aujourd'hui Sophie Janin. Vous pouvez nous retrouver sur rfi.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute dans quelques instants, journal.